Bonjour à vous. Je ne pourrai pas parler avec ça, hein, je vous le dis. C'est pas possible. Ce n'est pas la respiration qui pourrait suivre. Nous avons pris ce local parce que nous sommes rendus compte que le soleil ne revenait pas. Il y a eu une année comme ça où il n'y a eu que du soleil au mois de septembre et la mi-octobre. Il faisait 14-15 degrés toute la saison. Parfois il pleuvait pas. Donc, ma femme désespérée, c'était une année où j'ai vu sur le bord de la dépression, elle qui est née en Afrique, qui a vécu en Afrique. Et donc, je me rappelle de cette année-là. Bon, il y a une année où on a fait le jardin entre le 1er et le 14 juin. Bon, on a eu les mêmes résultats que si on avait commencé au mois de mars. Hein. Ça ne sert à rien de courir. Ce qu'il y a, c'est que le local ici, il fallait faire un test. Si on compte qu'il faut 4 à 5 mètres carrés par personne, il y a à peu près 60 mètres carrés, ça fait 12 personnes. Alors, 32, 6, 9, 10, 14, 15. Vous voyez déjà dans les normes comment ça va. Bon, est-ce que les normes vont sauter bientôt? J'irai voir la police, j'irai demander. D'autre part, si elles sautent, on peut rester ici. Si elles ne sautent pas, s'il faut toujours ces normes-là, il y a un local beaucoup plus grand dans le village. 3-4 fois plus grand, on sait mettre plus de monde. Mais il fallait voir qui allait venir la première fois et qui serait là, et puis qui reviendra. Et c'est toujours pas facile, hein, de savoir. Vous avez vu les champs, ils étaient magnifiques. On nous a parlé de la puissance de Dieu et tout. Et vous avez déjà peut-être fait l'expérience de la puissance de Dieu. Vous étiez à deux doigts de la mort, à deux doigts de quelque chose de très grave et pas forcément une maladie, hein. Sur le point d'être tué ou quelque chose. Dans un accident de chantier ou à l'armée, hein, il y a des expériences qu'on fait où on voit que ça aurait pu être fini. Moi, quand j'avais 4 ans, avec la fièvre typhoïde, je me rendais compte dans le lit, chez moi, chez mes parents, pas d'hôpital à ce moment-là, je suis né en 48, pas d'antibiotiques, et... il m'est venu à l'esprit, si quelqu'un avait la foi en Dieu qui priait pour moi, je guérirais. Bien sûr, c'est pas mes parents qui m'ont dit ça, ils croyaient pas. Mais est-ce que c'est une heure après, deux minutes après, trois jours après, je dis, si je vis, je chercherai Dieu, de toute façon, même si tout le monde est contre. Et le lendemain, je courais comme un lapin. Ça, c'est le début d'une vie où j'ai été marqué comme ça. Et lors d'une visite, quelqu'un parmi vous nous a visités et il était donc à l'armée. Au bout de son fusil avec la lunette, il avait un bonhomme de Boko Haram ou de Daesh, État islamique, en face. Et lui aussi, il avait dans la lunette. Et comme il est chrétien, il ne voulait pas tirer. Et il se passait quelque chose, c'est que personne ne tirait des deux. Et donc, cette histoire-là m'a fait penser, et fort heureusement, des soldats américains sont arrivés, et c'est eux qui ont arrangé le problème. Je m'excuse, au dépend de l'autre. Mais cet homme-là a échappé à la mort, et il ne voulait pas tuer. Et il m'est arrivé un jour, nous avions logé quelqu'un, mais j'ai souvent été impulsif, pas tout le temps, mais parfois... J'avais pris quelqu'un à la maison, j'avais logé, et puis je m'en vais travailler sur un chantier à quelques kilomètres d'ici, gratuitement chez quelqu'un. Comme il était logé et nourri, ben je comptais qu'il allait quand même travailler 2, 3, 4 heures avec moi. Mais il foutait rien. Et il ne fichait rien du tout. Et à un moment donné, j'étais énervé, j'ai fait la remontrance. Et il était d'origine musulmane, maghrébine, et... Et il est monté en tour, mais pas 2-3 tours, 5 000, 10 000 tours. Il était en face de moi avec la pioche, la pioche de chantier qui est très pointue, et de l'autre côté qui est une lame. Il la lève, il était en face de moi, et je dis, j'ai vu tout de suite, Seigneur Jésus, si ce n'est pas toi qui l'arrêtes, Satan va permettre qu'aujourd'hui je suis terminé. Je suis terminé, je n'aurai pas le temps de me tirer. Pourtant, je me suis déjà défendu dans des bagarres, hein, mais là, il était trop tard. Je voyais une puissance en plus que celle du bonhomme. Je voyais pertinemment qu'il y avait une autre puissance. Et je le regardais, je ne disais rien, et j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir pris cet homme sans avoir consulté Dieu, sans avoir prié. Sans avoir prié, sans avoir demandé avis, et donc le prendre. Je l'ai par charité, mais ça ne suffit pas. La charité selon la chair n'est pas selon l'esprit, c'est pas la même chose. J'ai demandé pardon, et ça durait, il avait toujours, il vociférait, il criait, il avait le truc au-dessus levé, là, et je dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande de le désarmer. Seigneur, mon Dieu, je te demande de le désarmer. Ça a duré, ça m'a paru être une éternité. Ça a peut-être duré 5 minutes, 3 minutes, je n'en sais rien. Un quart d'heure, toujours est-il qu'à un moment donné, dans mon âme, le Seigneur me dit, je l'ai désarmé, tu peux lui parler. Je lui ai parlé, et il a posé son truc, et puis après, on a continué notre journée, puis je l'ai pris dans l'auto, je l'ai logé, le lendemain, je le conduisais à Bruxelles, je lui avais trouvé un logement. J'ai eu plusieurs fois des choses comme ça dans ma vie, et c'est pour ça que je vous dis que l'autorité de Dieu est grande. J'ai souvent expérimenté. Et pourquoi ? Parce que dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Le serviteur ne sait pas ce que veut son maître. Mais vous êtes mes amis, vous savez ce que je veux. Pratiquement, dans la vie avec le Seigneur, c'est réellement ça la réalité que j'ai appris à vivre et qui se développe. Et en rentrant de Paris, dimanche passé, je regarde sur mon téléphone et je vois un ami pasteur, un très bon théologien du Nouveau Testament, en grec, en hébreu, c'est quelqu'un qui était remarquable à l'Institut, qui a été mon directeur, et c'est lui qui m'a demandé de rester dans le coin pour travailler ici. Je l'ai accepté comme venant du Seigneur, parce que je n'avais vraiment pas envie de rester dans mon coin. Ça, je veux le dire. Ça, il a dit, on a prié à quelques-uns, et il faut que tu restes dans ta région, surtout pour la région française, pour les Français, et que la parole de Dieu soit annoncée. Il ne m'a pas promis que j'aurais du succès, pas du tout. Il m'a dit, voilà ce que nous pensons que le Seigneur te demande. Cet homme avait pensé revenir et il a eu des tuiles monumentales avec ses enfants, mais monumentales et éprouvantes. Il n'est jamais revenu, sauf une fois ou l'autre, en vitesse pour l'Institut, pour prêcher une fois ou deux. Mais et dernièrement, dimanche, je rentre, je le vois sur mon smartphone, dans le lit. Il est couché comme un moribond, pas loin de la mort. Et on est en train de lui faire une piqûre. Et c'est une de ses filles qui prend la photo et qui me l'envoie.
Sur Facebook.
Et c'est vrai qu'il ne faisait pas belle. Hein. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'avait presque plus d'hémoglobine rouge dans le sang. Donc il peut respirer, mais ça ne sert à rien. L'air ne passe pas dans l'hémoglobine. L'hémoglobine ne va pas dans le corps. Le corps se meurt. L'esprit, tout se meurt. Et donc... j'ai pensé au petit Noé de la famille et qui avait 400 globules rouges au millimètre cube de sang et normalement on en a 4000. Un millimètre cube de sang, c'est pas gros, il y a 4000 globules rouges pour prendre l'oxygène. Mais Dieu est un génie infini, parce qu'il n'y a pas que les globules rouges dans un millimètre cube de sang. Il y a les globules blancs, il y a des tas de choses d'autres. Vous savez, c'est une fortune, une goutte de sang. On ne s'imagine pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le petit Noé, c'était à cause de la présence d'un Sénégalais chez nous, qui avait des ceintures et des grisées que le marabout lui avait données et que les grand-mères, etc., lui avaient données. Et il y avait des gens qui avaient des cauchemars, etc., dans la maison, qui m'en avaient parlé dans les réfugiés. Et la maman ne savait plus marcher, ne pouvait plus marcher. On la portait sur une chaise. Et le gamin était en train de mourir. On allait toutes les semaines à Liège. Puis deux amis, deux Africains qui étaient devenus chrétiens, qui avaient des traces de sorcellerie sur le corps, parce qu'ils avaient été initiés, ils s'étaient sauvés, m'ont dit, un tel a une ceinture, il veut que nous fassions de la sorcellerie. Alors ils m'ont averti, et c'est comme ça qu'on l'a convoqué, Vincent est venu, et nous avons parlé avec lui, il niait tout, mais en fin de compte, je l'ai menacé, tu sors tout de suite, tu ne passes pas la nuit. Ou alors, on porte la ceinture autre part pendant 3 mois, tu as le temps de choisir pendant 3 mois. Mais je lui dis, écoute, ta sorcellerie, c'est l'œuvre du diable ici dans la maison. Il n'y a pas de place pour le diable chez nous. Et donc, ce qui s'est passé est l'œuvre de la mort avec Satan. Et je dis, tu vas voir demain, cette femme en remarche et ce petit va aller mieux. Et tu vas comprendre que tu es venu avec la mort et avec Satan ici. Et que tu dois changer de chemin. Et donc pratiquement cet homme n'a pas changé de chemin. Au bout de 3 mois, il a fait semblant, il a raconté des bêtises, il est reparti en Italie. Et j'ai appris qu'il avait été recherché sa ceinture chez la Sénégalaise, à Chenoy, où il l'avait déposée. Il n'a pas renoncé, mais il a entendu l'évangile, il avait une Bible, il venait au culte. Donc quand vous avez quelqu'un ainsi au culte, c'est pas pour ça qu'il est à Christ, hein, même s'il a une Bible et qu'il chante. C'est très important de savoir qu'il y a toujours du vrai et du faux partout, et que le diable cherche toujours à tromper, et qu'il est le maître de la mort. Ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, à la visite médicale, il avait 2000, le petit, la semaine d'après, donc 10 jours après, il avait 4000. Donc il n'était plus dans la mort, il vit toujours, Noé, comme ça maintenant. Et j'ai pensé pour ce pasteur que c'était la même chose. Je pensais, il s'est passé quelque chose, déjà sur sa fille, sur d'autres dans la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas le détail, mais alors j'ai pris la décision de prier, de jeûner et prier et de demander à Dieu. Au bout de 24 heures, j'avais l'assurance que Dieu le guérissait, avec pris la décision de le guérir, et que je ne pouvais faire qu'une chose pendant tous les jours qui suivaient, c'est remercier Dieu. Même si je ne voyais rien du tout, remercier Dieu. Et hier, je reçois une photo où je vois mon ami John Clayton debout à côté de sa femme et de son neveu, son petit-fils, debout et plus moribond. C'est ne doutez pas de la personnalité de Jésus-Christ. Et ne doutez pas surtout aussi de l'autre, le vilain, qui veut régner. Alors c'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, nous allons prendre la parole de Dieu, si vous voulez bien, au chapitre 10. Je vais vous dire, nous ne sommes pas nombreux. C'est peut-être Dieu qui l'a décidé comme ça. Mais sachez bien que sur les enseignements de semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h, il y a entre 15 et 45 personnes qui sont là. Ce n'est pas décidé non plus. Mais si on va sur le site, Jean-Christophe me disait que l'année passée, en 2020, il y avait eu 18 000 et des visiteurs. Si on retire tous les robots et tous les curieux, il reste à peu près 6 000 personnes qui vont dans le site. Et vous savez, il y en a 1400 aux États-Unis, 1300 en France, 1300-1400 en Ukraine, et dans les pays musulmans, et le plus gros morceau, c'est en Chine. J'ai jamais pensé. Qu'est-ce que vous voulez que j'imagine, moi? J'imagine rien du tout. Je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire, si nous donnons notre vie à Jésus, c'est pour être dépassé. C'est pour qu'il soit devant, pas derrière. j'ai fait trop longtemps l'inverse. J'ai dû demander pardon à Dieu. Et c'est plusieurs personnes qui m'ont secoué pour que je suive le Seigneur. Ce n'est pas lui qui devait me suivre. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, vous avez ici une prédication, au verset 34, de Pierre. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » C'est pour ça que je vous dis, sur le site, dans la semaine, enfin sur le site, là où il y a tellement de monde que je ne connais pas, et puis en semaine, là, il fait exception de personne. Hier, j'ai été invité à me rendre en visite chez une personne, une dame. Elle a une vie, mais incroyablement dissolue. Elle me dit, raconte toute sa vie, et elle me demande que je vienne. J'ai pu prier, j'ai pu prendre des textes de la parole de Dieu et tout. Elle me dit, vous devez revenir. Et j'ai dit, c'est pour changer de vie. Mais elle est d'accord. Mais il faut l'autorité de Dieu pour qu'elle change de vie, c'est pas moi. Jeannot Lapin, il change la vie de quelqu'un. Il y a longtemps que j'ai fait le tour du problème et que je n'y crois plus. Alors, le super évangéliste, pour moi, il n'y en a pas. C'est Dieu qui échange. Alors, regardez bien. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, donc la sainteté, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée et à Jérusalem après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et regardez bien la parole ici, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. » Alors, c'est sûr que quand je vois la photo de mon brave John debout à côté de sa femme, et sa femme est complètement éperdue, je le vois à sa tête. Elle le croyait déjà enterré, quelques jours après. Et son petit-fils qui est tout heureux, là, qui a un regard. Celui-là va entrer dans la foi, avec un coup pareil, il va entrer dans la foi. Je ne serais pas étonné qu'il reprenne le chemin de son grand-père pour servir Dieu. Je vais essayer de communiquer avec lui, ce ne sera pas facile en anglais pour moi, mais je crois qu'on pourra. Mais ce qu'il y a, c'est clair que il y a un empire du diable sur lequel il n'y a qu'un qui a l'autorité, c'est Christ. Christ. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc à peu près plus de 500 personnes. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 6, vous verrez, il y a à peu près 630 personnes, 620 personnes qui ont vu vraiment le Christ ressuscité, juste après la résurrection, qu'il avait convoqué. Et ce qu'il y a, témoin choisi d'avance. Alors, êtes-vous un témoin choisi d'avance? Et c'est... Il a fallu que je me mette à l'évidence qu'il m'appelait. Et vous croyez que je me marrais? L'autre en face, là, vous croyez qu'il fait rien? Non, le diable. Alors, si on est témoin du Seigneur, l'ennemi est bien certain. Mais ce qu'il y a, Christ a l'autorité. Donc, selon la foi que l'on a, selon l'adoration qu'on a, le temps qu'on prend dans la parole de Dieu, le temps qu'on donne à Christ dans la parole et l'adoration, et l'action de grâce surtout, l'action de grâce, dire merci, l'autorité de Christ nous accompagne. Autrement, c'est la faiblesse de la chair. Et nous sommes toujours, toujours sujets à des faiblesses, à des chutes, à des égarements, à des mauvaises décisions, à des obsessions, à des peurs, à des angoisses et des incertitudes tout le temps. Il faut savoir que si nous sommes chrétiens et que nous sommes appelés par Christ, chaque fois qu'une pensée Une pensée d'incertitude, de peur, d'angoisse, d'égarement dans des affaires matérielles, d'égarement dans des affaires sentimentales, d'égarement dans des affaires sexuelles, d'égarement dans des affaires politiques, de société, il faut toujours dire que le Seigneur Jésus te réprime. Parce que vous ne le voyez pas, il est là. Que le Seigneur Jésus te réprime, au nom de Jésus arrière, et votre esprit sera dans la paix avec Christ. Et votre GSM fonctionnera bien et recevra toutes les émissions. Si vous ne faites pas ça, votre GSM est encombré d'un tas de trucs et vous percevez de temps en temps une parole de Christ. Et puis vous l'oubliez surtout. Il y a chez nous un discernement à avoir. Chacun de nous doit avoir un discernement. Si des choses nous arrivent dans l'âme, dans l'esprit, dans les sentiments, que le Seigneur Jésus te réprime. Et sachez bien à qui vous l'adressez. Ce n'est pas vous qui pourrez chasser. Il ne faut pas dire à rire Satan. Non, non, Jésus à rire Satan. Sans le Seigneur Jésus, croyez pas qu'il va reculer. Hein. Il va vous avoir encore plus. Alors, dans la vie spirituelle des chrétiens, il y a énormément d'égarements, il y a énormément de choses, de faiblesses, mais nous avons la possibilité d'être forts. Ah, je cherchais mes lunettes, elles sont sur mon nez. Alors, excusez-moi, j'ai déjà fait une fois le tour de la maison en cherchant mes lunettes, elles étaient sur mon nez, à punaise. Non, je viens d'aller voir l'ophtalmologue, il m'a dit, elles sont bonnes, ça fait 13 ans, les yeux n'ont pas changé. Mais, quand Pierre a prêché, là, dans Actes, chapitre 10, hein, il fait référence à Jésus, clairement. Alors, il dit au verset 42, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il est mon juge, il m'apprend qu'il est là et il m'apprend que des choses doivent reculer dans ma vie. Parce qu'il est le juge de mes pensées. Et donc, quand j'accepte, je peux dire à toutes sortes de fantasmes, toutes sortes d'idées, d'obsessions matérielles, de toutes sortes, que le Seigneur te réprime. Parce que je ne dois pas être le temple de l'inquiétude, de la recherche matérielle, des affaires de ce monde. Je ne dois pas être ce temple-là. Dieu ne m'a pas choisi pour ça. Et ce qu'il y a, vous êtes choisi pourquoi ? Pour être témoin. Nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge les vivants. Il est notre juge, nous, en tant que vivants, en Christ. Et il est le juge des morts. Cette femme qui m'a appelé au matin, écoutez, j'en ai entendu toutes les sortes. De toute façon, ça fait tellement longtemps que j'en ai entendu toutes les sortes, ça ne m'échauffe plus. Mais j'ai dit clairement ce texte et d'autres textes, et puis j'ai dit, il va falloir mettre tout au point. Hein. Si réellement elle devient chrétienne, c'est là qu'elle saura qu'elle est passée du noir au blanc, hein. Boum, ou du blanc au noir, mais c'est parce que j'ai rien contre les noirs. Hein. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que vous devez faire attention. Il y a un juge pour les morts aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour ceux qui sont en péché et qui s'égarent. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, si j'y retourne aujourd'hui soir ou demain, tout près de cette dame, je vais lui demander, est-ce que vous, je lui ai donné le texte de la Samaritaine, Jean chapitre 8, à lire 5-6 fois. Jean chapitre 8, pas la Samaritaine, la femme adultère que Jésus dit, toi, je ne te condamne pas, ne pêche plus. 5 ou 6 fois avant que je revienne. Et moi, je demande à Dieu d'envoyer sa grâce par son missile. Dieu est bon et miséricordieux. Pourquoi ? Ben parce que je suis démuni. Ça ne veut pas jouer trop au sérieux, l'évangéliste, super évangéliste. C'est de la blague, tout ça. C'est Dieu qui va juger et lui montrer. Et si, quand j'arrive, elle l'a vraiment lu, d'ailleurs je vais téléphoner, est-ce que tu l'as lu ? Parce que autrement, je ne reviens pas. Je ne marche pas. Je ne suis pas en visite touristique. Alors, ce qui se passe, est-ce que tu es prêt à recevoir le pardon de Jésus ? Il ne faut pas bâcler le travail du Seigneur. Il ne faut pas le bâcler. C'est lui qui fait le travail. Il ne faut pas le bâcler. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors là, on peut être sûr que le Saint-Esprit vient. Comprenez ? Tous les fidèles circoncis, donc c'est des gens d'origine juive, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, ils reçoivent la vie divine en eux, et vous pouvez lire, évidemment, ça c'est un texte, mais vous en avez d'autres dans les Actes des Apôtres. Le chapitre 11 est formidable. Alors, moi je vous ai parlé de l'autorité de Christ. Vous savez que les maladies jouent un rôle énorme pour le moment, avec le Covid. Le Covid s'est déclaré la semaine après la signature de l'Alliance du Nord. L'Alliance du Nord, c'est ce qui est annoncé dans Ézéchiel 38. En novembre 2019, la Russie, la Turquie et la Chine ont passé un accord militaire. Les États-Unis ne peuvent plus rien faire. Quand ils ont signé le lendemain, les avions iraniens, russes, tout le monde passait au-dessus des bateaux et narguait. La semaine d'après, quelques jours après, commence le Covid sur la Chine, à Wuhan, et puis surtout en Russie et en Iran. Est-ce qu'il y a eu un coup de la CIA ou pas? Je n'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Dieu seul le sait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que l'Alliance du Nord est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'elle l'est signée, c'est celle-là qui, quand elle passera à l'action, c'est Gox et la Turquie qui commandent l'action, ce n'est pas l'Iran. Et donc pratiquement, il y aura une attaque sur Israël, elle passe par Hamas, il y a déjà eu des missiles du nord, du sud Liban sur Israël, ils sont en train de tester Israël, mais c'est clair, Israël n'est plus capable de se défendre. Il y a 200 000 missiles et roquettes au sud Liban et sur la Syrie, plus des missiles supersoniques russes, 8000 km/h, et les missiles Patriot font 2300, 2400. Autant dire que c'est des lance-pierres à côté. Donc pratiquement, l'Alliance du Nord et Dieu, vous lisez Ézéchiel 38, permet que le dirigeant de Gog ait le dessein d'attaquer. Permet, c'est quand Dieu le permet. C'est pour vous dire que dans tout ce qui se passe, c'est quand la permission de Dieu vient. Satan n'a pas l'autorité comme ça. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est quand le Père a permis et que Jésus a bien voulu. Personne n'a ôté la vie à Jésus. Et dans l'histoire humaine, rien ne se passe sans la permission de Dieu. Rien. Et le résultat, c'est que après, c'est la défaite. Lisez bien Ézéchiel 38. C'est la défaite de toutes ces puissances-là. Alors, cette maladie crée l'angoisse, crée l'inquiétude, etc. Et si vous lisez la fin de l'Apocalypse 6, vous avez le cheval blanc, c'est l'impérialisme, rouge, c'est les guerres, hein, etc. Noir, c'est la famine, mais beaucoup de gens sont dans la famine sur la Terre. Hein. Nous sommes des privilégiés ici, et encore si ça dure. Et cheval vert, c'est les épidémies. Maintenant, ça n'arrête jamais, hein, vous voyez, on en retrouve toujours. Que ça soit dû à l'homme ou pas, que ça soit dû à Satan ou pas, ça ne nous intéresse pas. C'est annoncé et la victoire de Christ est annoncée. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le problème, c'est de voir la victoire de Christ. Le chrétien doit voir la victoire et la puissance de Christ. S'il regarde au fait, il va oublier le Christ et sa victoire. Et il sera sous l'attaque spirituelle de Satan. Parce qu'il regarde l'événement, il regarde et il cherche à comprendre l'événement, alors que Dieu a déjà court-circuité l'événement dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui est autorité, c'est pas nos petites intelligences et nos supputations. Alors, nous allons prendre des textes un peu plus forts. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, quand vous l'avez eu tout à l'heure avec Vincent. C'est peut-être, ça passe vite, hein, on ne fait pas toujours attention. Colossiens 1, 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, c'est Christ. Hein. Donc, si le chrétien qui est là à Colosse, dans sa communauté, et c'est une communauté, c'est des hommes et des femmes comme nous, eh bien, ils sont rendus capables. Ils ont une capacité venue d'en haut d'avoir part à l'héritage des saints. Ils ont reçu la vie éternelle pour toujours. Deux, ils sont dans la lumière, ils sont en Christ. Ok ? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, ça revient à ce qu'on a lu dans Actes chapitre 10 et qui est sorti de la bouche de Pierre, nous délivrer de l'empire du diable, c'est ça. Nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Devant les événements aujourd'hui, devant tout ce qu'on entend, on analyse, sommes-nous clairement au point en sachant que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et que nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Si nous avons une attitude sentimentale, psychique, fragile, nous allons être court-circuités entre les deux. Et nous allons toujours nous débattre dans les problèmes de radio, télévision, internet et tout le bazar, et nous n'allons pas être dans la certitude de Christ. C'est ce qui fait la fragilité de beaucoup de chrétiens. Et qui fait qu'ils s'affaiblissent, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne prient pas assez, et ils ne remercient pas Dieu assez. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, les ténèbres sont condamnées. La victoire de Dieu sur les ténèbres est réelle. Moi, j'ai fait l'expérience avec ce bonhomme avec la pioche au-dessus de moi, et ce chrétien-là qui avait... Ils étaient tous en face de l'autre, et ils ne voulaient pas tuer, parce qu'il est chrétien. Il a été délivré de ce problème. Donc, il y a des moments où dans la vie, c'est en Christ qu'on se pose. Et si on écoute notre chair, on est foutu. On n'a pas manifesté notre confiance à Christ. Alors, Christ est celui qui nous a créés. Regardez bien, verset 18. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si les dominations, les principautés sont créées par Christ, elles sont fidèles à Dieu, elles sont fidèles à Christ, un tiers des anges s'est révolté contre Dieu et lutte contre Christ et contre le plan de Dieu, et ce n'est pas eux qui se sont créés eux-mêmes. Ils se sont révoltés avec l'archange Satan, et ils iront en enfer. Leur œuvre est provisoire et ils ne travaillent que dans les circonstances permises par Dieu. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc pourquoi trembler? Pourquoi s'inquiéter? Et les actes des apôtres, en fin de compte, les actes des apôtres, c'est un texte, c'est un livre écrit par le médecin Luc. Imaginez qu'il ait continué son travail et qu'il n'ait pas voulu se donner entièrement à l'œuvre de Christ. Et il refaisait le toubib, puis c'était le toubib, c'était fini. Il n'y avait pas l'évangile de Luc, il n'y avait pas les actes des apôtres. J'ai dit ça un jour à deux médecins anesthésistes, l'homme et la femme qui faisaient l'institut. Ils avaient fait un an, ils doutaient. Oh, on a fait un an et tout ça. Alors je dis au directeur, tu leur diras de ma part... Pensez bien que si Luc avait repris son travail quand il avait rencontré les chrétiens à Jérusalem, hein, ou autre part, Paul, il n'y aurait pas l'évangile de Luc et les actes des apôtres dans la Bible. Est-ce que ça serait la même chose? Dis-leur de ma part, Richard Bisset, dis-leur de ma part, ce serait la même chose. Alors, si ils ne servent pas le Seigneur, est-ce que sur la terre, ça sera la même chose que s'ils n'avaient pas servi? Servir ou pas servir? Si c'est rien du tout de servir, oui, il ne faut jamais servir. Restons tous dans nos trucs, nos tripes. Ce qu'il y a, c'est que quand Dieu nous appelle à servir, c'est qu'il a un plan et qu'il y a un effet, il y a des choses à faire, même si on ne les voit pas. Et je vous dis, on n'est pas nombreux ici, mais quand je regarde sur le site, ça se demandait pourquoi. Quand je vois qu'il y en a 4500 en Chine, mais pourquoi? Et pourquoi tout d'un coup qu'il y a des gens au Pakistan, maintenant encore une autre communauté? Alors, chers amis, pas de pourquoi. Laissons faire Dieu, c'est lui qui navigue, qui prend le gouvernail. C'est ça le principe de la vie chrétienne. Nous avons vu que Christ nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, versets 13 à 15. Maintenant, est-ce que Christ a une autorité extrêmement pratique tous les jours? Bien, regardons. Les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9. Une activité pratique, quelque chose qui pourrait toucher nos yeux. Bien, je vous donne l'exemple. De ce pasteur, John Clayton, hein, qui est debout. Alors, maintenant, est-ce que ça peut pas encore arriver? C'est arrivé au petit Noé, c'est arrivé à sa mère qui a marché. Pourquoi ça n'arriverait pas encore? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas tout-puissant? C'est moi qui décide qu'il ne soit pas tout-puissant. Par mon incrédulité, ça c'est grave. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9. Un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, donc il est au deuxième, troisième étage, et notre ami Paul est en train de prêcher, et ça dure depuis des heures, et puis tout d'un coup, ce brave jeune homme est sur le bord d'un fenêtre, paf, il tombe, il se tue. Hein? Un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, ce fut le sujet d'une grande consolation. J'ai connu une église au Bénin, de 2500 personnes, la moitié était en dépression. Visitées la nuit par toutes sortes de mauvais rêves, de paroles qui venaient et qui troublaient leur nuit. Et l'évangéliste m'envoie là. Ouh! Alors là, j'ai dormi 1h15 cette nuit-là. Le reste, je préférais prier. Hein. Et pratiquement, c'était un kitoudou quand j'étais au Bénin la première fois, tout seul. Je dis, mais ils m'ont rempli le frigo, c'est une tentation. Des jus de fruits, de tout. Je leur avais dit, je veux manger comme vous. Alors j'ai été chercher des jeunes dans la rue, ils m'ont vidé le frigo, ils ont tout mangé, j'étais content, et j'avais plus de problème avec ça. Je suis arrivé dans l'église, j'étais libre de toutes ces œuvres, de la mangeaille, des tripailles et tout le reste, qui vous endort l'esprit. Et j'écoute, je regarde, et puis je me dis, voilà, il manque, il y avait quelque chose de... Il chantait bien, ça allait bien, mais il y avait un problème. Lequel? De nouveau la nuit d'après. Mais en sortant, une jeune femme me dit ce qui se passe pendant sa nuit. Elle me raconte. Le lendemain, j'arrive, il y avait deux sorcières dans le culte qui cherchaient à m'hypnotiser, comme des phares halogènes qui ressemblaient à des yeux de crocodile. Dans l'assemblée, chers amis, quand vous avez ça en face de vous, si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, vous taillez. Tellement c'était fort. Et une, ça s'est éteint, l'autre, elle est partie après le culte en vitesse. J'ai eu une rencontre avec le pasteur principal, on a prié jeûné, elle a été clouée au lit. Grâce à Dieu, elle ne pouvait plus venir au culte mettre la pagaille. Mais dans cette église, quand il y avait des conversions, le pasteur principal m'a dit c'est la 13e et 14e sorcière qui sont venues ici. Parfois, c'est des sorciers pour ruiner l'église. Eh bien, quand il y avait des conversions, un Jeep 4x4 passait sur les nouveaux convertis à 50 ou 100 mètres avant l'église, reculait 2-3 fois et repartait. Toute l'assemblée sortait et priait, la personne se relevait. Et le pasteur qui était là, je ne pouvais pas douter de sa parole. C'était pas un rigolo. C'était vraiment un homme de Dieu expérimenté. On le voyait. Alors, Croyez-vous que Dieu n'existe pas quand vous voyez des choses pareilles? Que des personnes qui sont fracassées par un 4x4 se relèvent? Paul a été lapidé plusieurs fois, il s'est relevé, parce que les chrétiens sont réunis autour de lui et ont prié. Ne doutez pas de la puissance de Dieu, mais il faut se consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Voilà Eutychus. Maintenant, regardons Acte 9, verset 36. Je ne vous demande pas de chercher à changer une sauterelle en crapaud, ni un serpent en vache, de faire des miracles de ce genre-là, parce qu'il y a eu des écrits apocryphes à l'époque de Jésus, au 1er siècle, avec tous des trucs pareils. Mais ce n'est pas ça. Nous croyons en Christ. Acte 9, verset 36. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Dorcas, c'est en grec. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Acte 9, 36. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. C'est des rites qu'on trouve dans l'islam, ça. Lavé, etc., entouré d'un linge et tout. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc c'était une couturière. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, c'est le prénom de la femme, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever, il appela ensuite les saints, donc les croyants, et les veuves, et la leur présenta vivante. C'est la blague ou c'est réel? Tout le problème est là quand on lit la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, est-ce qu'on considère que c'est de la blague ou c'est du mythe? Vous savez, pour beaucoup d'églises, tout ça est mythologique et symbolique. Pour 92-95% de la chrétienté, mais maintenant c'est comme ça, la chrétienté. Allons dans Acte 16, verset 16. On va commencer au verset 13, acte 16, 13. Le jour du sabbat, donc vendredi soir, 18h, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait là un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait l'évangile que prêchait l'apôtre Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous avez vu, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ça, c'est extrêmement important. L'honnêteté de Luc, l'honnêteté de Paul. Jamais le prédicateur qui ouvre le cœur. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. C'est demande répétée, si vous voulez. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, le python est un puissant serpent, très dangereux, ça rigole pas. C'est Bouddha, Bouddha, dans toutes ses révélations, était en face d'un python. Il faut ses écrits, c'est pas pour rien, de toute façon. Que le python était avec lui, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. En devinant, vint au-devant de nous. J'ai connu une personne ici, à 800 mètres d'ici, qui est venue une fois, elle allait mourir avec sa statue et tout ça, de Vierge Marie et tout le reste, des saints, me demandant si elle allait être sauvée avec ses statues. Alors je lui ai dit, écoutez, rentrez chez vous, je vais venir dans une heure. Elle avait plein de maisons de prostitution à Luxembourg, etc. Elle avait fait des magouilles toute sa vie et elle avait peur de mourir. Et cette femme, quand elle allait à la banque à Virton ou à Arlon, elle rentrait, elle sortait, elle avait fait ses affaires, elle rencontrait quelqu'un, vous avez 300 000 francs dans la poche. Vous venez de sortir avec 50 000 francs. Et la personne disait, ben oui, c'est vrai, comment vous savez? Ça, c'est l'esprit de Python. Et vous avez des financiers en bourse, des traders qui ont l'esprit de Python. Attention, vous les amis, la haute finance et Python. Alors, on va croire que Python a disparu. C'est une forme satanique et diabolique de Satan, d'agir dans le monde. On l'appelle Mammon aussi dans Matthieu, hein, Jésus l'appelle Mammon. Alors, un esprit de Python qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, Silas et Barnabas. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Donc c'était formidable, le marketing était assuré par le diable. Et les gens ne savaient pas que c'était le diable, ils croyaient que c'était bien. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au démon, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats, etc., etc. Ils les présentèrent aux prêteurs, donc aux dirigeants de... et disant, ces hommes troublent, ce serait le gouverneur de la province, le préfet, si vous voulez, troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. Vous voyez les fauchetons. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ça y est, on leur arrache les vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, etc. C'est pas de la rigolade, l'engagement pour Jésus-Christ. Mais vous avez vu que Satan avait perdu la partie. Et c'est où ça, chers amis? Eh bien, il y a eu tout le long du parcours de notre apôtre Paul, Silas, Barnabas, Timothée, tout ça, des faits comme ça. Et croyez-vous que dans certains pays, il n'y a pas des faits comme ça? Il y a des gens qui servent le Seigneur et qui ont des faits puissants comme ça. Pas à cause d'eux. Parce que le Seigneur les a appelés, ils ont répondu, ils se sont engagés pour le Seigneur. Et le Seigneur les accompagne de signes puissants. Croyons-nous que Dieu peut diriger nos vies et nous donner des signes puissants? Le croyons-nous? Nous en Europe, qui raisonnons beaucoup. Enfin, on pense qu'on raisonne. Souvent on s'égare. Chapitre 19, verset 15. Je vais commencer au verset 11 de nouveau. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies, il les quittait, les esprits malins sortaient. Ça y est. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est devenu dangereux, parce que dans le catholicisme, c'est les reliques. Hein, les trucs en verre avec de l'or, les reliques et tout le reste, d'un saint et tout ça. On est parti de ça pour en faire une contagion de superstition. Alors que c'est un fait, et puis point, il n'y a pas d'autre fait à ajouter. Quelques exorcistes juifs, donc des gens qui prétendent chasser les démons, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. » Donc ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Ils avouent déjà qu'ils n'y croient pas. Par le Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juif, un des principaux prêtres de la synagogue. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors regardez bien ce qui se passe. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Donc, on est à Éphèse, au chapitre 19, et on voit qu'il y a des imposteurs qui essayent de faire comme les chrétiens. J'ai reçu deux revues dernièrement. D'un courant pentecôtiste très puissant. C'est tous des pasteurs africains. C'est dommage, je l'ai oublié de le prendre là. Et de vous lire des prières. C'est toutes des paroles de puissance pour promettre aux chrétiens d'être riches. Promettre aux chrétiens d'être puissants, d'avoir des miracles et tout ça. Mais là, c'est des menteurs. Là, c'est des menteurs. Parce qu'ils laissent croire à tous les chrétiens, ça, ils ne les invitent pas à donner leur vie à Jésus, à se consacrer dans la prière et l'adoration, à l'humilité et à laisser faire Dieu. Ils promettent que Dieu est au service des gens, des hommes. Dieu est au service d'eux. Et il y a d'immenses assemblées, je vois des photos. Bien sûr, ce qui fait le contentement du pasteur, c'est qu'après, il y a des paniers remplis de biais. Pas ici. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut toujours avoir de l'imposture partout où le nom de Jésus est prononcé. Vous en avez l'exemple. Partout où le nom de Jésus est prononcé, soit c'est vrai, soit c'est faux. Il faut donc discerner. Je vous invite à faire attention, très attention, parce que l'œuvre de Satan, c'est de mettre la confusion. On reprendra le sujet de la puissance de Christ, de l'œuvre de Christ, mais on reprendra en même temps l'autre qui essaye de mettre la pagaille. Et il faut que nous soyons intelligents, selon Dieu. Pour être intelligent selon Dieu, il faut beaucoup de temps dans la prière et la parole de Dieu. Vous savez, quand Pierre et Paul et tous les autres ont eu du succès, il y avait tellement de monde, les amis, qu'à un moment donné, il fallait s'occuper de donner à manger à tout le monde. Allez, on est occupé tout le temps. C'est très bien, les chrétiens. On est occupé tout le temps. On fait le bien. Mais regardez, je vous le dis toujours, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, c'est pour que nous soyons en garde où sont les priorités quand on est chrétien. Dans ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les chrétiens d'origine grecque murmurèrent contre les chrétiens d'origine juive, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude, les apôtres, des disciples, oui, plusieurs milliers, ils dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Délaisser la parole de Dieu. Il n'est pas convenable. 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit, saints et de sagesse, que nous chargeons sans emploi. Donc, on ne va pas dire, qu'est-ce qu'il veut aller faire? La charité et distribuer tout ça. Mais si c'est sans Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Tous ceux qui vont faire l'œuvre de charité et d'amour envers les autres doivent être dirigés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Et nous les chargerons de cet emploi, c'est-à-dire c'est une délégation venue du Collège apostolique. Donc, regardez à quel point on peut s'égarer dans la chrétienté d'aujourd'hui, parce que on a développé des œuvres de charité, on a développé des tas de choses. La Croix-Rouge est venue de ça, Amnesty International est venue de ça, plein de choses sont venues de ça, l'abbé Pierre et Emmaüs. Mais, ça a été choisi dans la prière? Ça a été conduit par le Saint-Esprit? Non, par les sentiments généreux.
Au départ, c'était
quand, à la fin de sa vie, on interroge l'abbé Pierre pour dire... Vous avez toujours aidé les pauvres, les avez aimés, tout ça, c'est admirable, c'est bien. Il était le premier homme de France, estimé par les Français, hein, dans le quota de l'applaudimètre. Eh bien, pratiquement, on lui demande pourquoi vous avez fait ça. Il n'a pas dit pas à cause de Jésus-Christ. Il a dit je ne sais pas. J'étais le jour-là, j'ai entendu. C'était à pleurer, je ne sais pas. L'apôtre Pierre, Paul et tous ces diacres-là, savait pour qui le faisait et pourquoi. Et nous continuerons.
Le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, c'était un chrétien convaincu.
Oui, et après, hop. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Regardez la priorité, où se trouve la priorité dans le corps de Christ. La prière, le ministère de la parole. Deux, la conduction du Saint-Esprit. On choisit des gens qui sont travaillés et dirigés par le Saint-Esprit pour faire les œuvres de solidarité, de fraternité. On n'est pas dans une œuvre humaine. On n'est pas dans une œuvre humaine. Voilà pourquoi l'Église de Christ, en deux siècles, a rempli tout l'Empire romain, parce qu'elle n'était pas une œuvre de Christ. Et voilà pourquoi, ici en Europe, la chrétienté disparaît, parce qu'elle n'est plus en Christ. Elle est dans les mains des hommes. Quant à nous, que choisissons-nous ? Quant à nous, que choisissons-nous ? Sommes-nous dans la parole de Dieu et la prière et conduits par le Saint-Esprit ? Vous voyez, reprenons le chemin des premiers chrétiens, reprenons le chemin des actes des apôtres, on n'a pas le choix. Échec lamentable en tout genre et en tout lieu.